Le matin léger du service des sports de RFI, du sport aussi tout à l'heure, à l'écoute de notre antenne 16h10 temps universel pour Mondial Sport. RFI bientôt 9h10, ici à Paris, excellente journée, à l'écoute de la Radio du Monde.
Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
déjouée. Je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs et auditrices, bonjour. Est-il encore besoin de présenter Philippe Besson, auteur d'une vingtaine d'ouvrages ? Nous vous avons d'ailleurs déjà incité à la lecture de « Arrête avec tes mensonges » et ceci n'est pas un fait divers. Son dernier roman, paru en janvier 2025 aux éditions Julliard, traite du harcèlement et s'intitule « Vous parlez de mon fils ». S'il n'est pas la retransmission d'une affaire précise, on ne peut s'empêcher à sa lecture de penser au suicide de Lucas en janvier 2023, adolescent de 13 ans, victime de harcèlement scolaire à connotation homophobe. Philippe Besson lui a d'ailleurs dédié ce livre, ainsi qu'à tous ceux qui, comme lui, sont victimes de harcèlement. L'auteur s'identifie au père de l'adolescent, qui, le jour d'une marche blanche, se remémore tout ce qui a conduit son fils à commettre l'irréparable. Il nous livre sans pathos sa douleur, son questionnement. Qu'aurait-il pu faire, lui et la mère d'Hugo ? Qu'aurait-il dû faire pour empêcher cela ? Assis au bord du lit, je fixe le verre d'eau posé sur la table de chevet, auquel je n'ai pas touché, et m'étonne de déceler un léger tremblement à la surface. Relevant la tête, je m'attarde sur la chemise, pendue à un cintre, que Juliette a préparé pour moi. Puis je regarde les rideaux qui filtrent la lumière du matin. On devine que le soleil est déjà là, violent. Et je songe qu'on n'aurait peut-être pas dû dire oui. En tout cas, moi, ça m'allait, le retranchement, le calme, après la catastrophe et le tumulte, même si c'était un faux calme, comme il y a des faux plats. Ça m'allait, la vie de tous les jours, même si je sais bien que la vie ne sera jamais plus normale. J'étais prêt à m'en accommoder. J'imagine qu'on ne pouvait pas refuser. La proposition partait d'un bon sentiment. Les gens tenaient tellement à nous montrer qu'ils n'oublient pas et à nous témoigner leur soutien, leur solidarité, quelque chose qui ressemble à de l'affection. Bon. Ils voulaient exprimer de la colère aussi, parce que la nôtre est devenue la leur, je comprends. De toute façon, Juliette a accepté d'emblée quand ils sont venus exposer leur idée. Ils étaient 5, ils avaient formé un comité, mais évidemment, ils ne se lanceraient pas sans notre accord. Impossible de faire machine arrière. Elle a trouvé que ce serait bien, que c'était important. Elle a sûrement eu raison, mais ce n'est sans doute pas ce qui l'a convaincue. C'est plutôt qu'elle en avait besoin, pour ne plus étouffer, pour expulser son chagrin et sa rage, pour tenter de supporter au moins quelques heures la folie d'avoir perdu un enfant. Je suis seulement vêtue du caleçon que je porte la nuit. Je pourrais me lever et pourtant je garde les pieds arrimés au sol, les mains posées à plat sur le matelas, le cou rentré dans les épaules. J'ai l'impression qu'il vaut mieux que j'attende un peu, pour ne pas risquer un étourdissement. Depuis quelque temps, le matin, je ne me sens pas d'aplomb. J'ai peur de tomber. Ça me fait comme des vertiges. Il faudrait sûrement que j'en parle au médecin. Mais si je le fais, il va me sortir des explications psychologiques et je n'ai pas envie de penser à ce qui tourne dans ma tête, à ce qui me serre le cœur. Juliette, elle, est debout depuis longtemps. Je l'entends qui s'affaire à la cuisine. J'entends les bruits de tiroirs, de cuillères, de couteaux, de bols, de portes de placard, des bruits ordinaires. Et cependant, ce matin, je jurerais qu'ils sont précipités, maladroits. Je dois me tromper. Derrière les rideaux, d'autres bruits, ceux de la rue. Un camion de livraison qui s'est garé pour décharger sa marchandise. Des automobilistes impatients qui klaxonnent. Des habitués qui discutent à la terrasse du café d'en bas. Une valise qui roule sur le trottoir. Le gling-gling de la porte de la pharmacie. En semaine, nous parviennent également les cris des gamins dans la cour de récréation de l'école primaire juste à côté. On a emménagé ici il y a 15 ans, juste après notre mariage. Je connaissais le quartier. J'y traînais quand j'avais 16, 17 ans. Et Juliette, l'endroit lui a plu. Elle disait que ça ressemblait à un village. Elle disait aussi, on ne voit pas la mer, mais on entend les mouettes. On sent le vent du large, c'est ce qui compte. Elle a grandi à Pornichet. Elle était attachée à cette idée de la mer. À Saint-Nazaire, c'est pas tout à fait pareil. Je veux dire, la mer, c'est pas vraiment pour se baigner. Bien sûr, on a des plages, mais nos vies, elles tournent autour des chantiers navals. On est d'abord une ville ouvrière. Les stations balnéaires, c'est plus loin. Finalement, je me lève et j'aperçois aussitôt mon reflet dans le grand miroir en pied. Je contemple mes tatouages sur les avant-bras, souvenir d'une jeunesse que je croyais turbulente, mais où, au fond, je me contentais d'imiter les copains. Je contemple aussi ma maigreur. C'est dans les gènes, il paraît qu'il n'y a qu'à voir mon père. D'ailleurs, moi-même, je l'ai refilé à mes fils, cette satanée maigreur. Les collègues se moquent de moi, m'appellent le manche à balai ou la planche à pain. Pourtant, quand j'étais chaudronnier, je n'ai jamais demandé d'aide à qui que ce soit pour la manutention. J'ai du muscle, il faut pas croire, mais rien n'y fait, il me chambre. Enfin, il me chambrait. Maintenant, il n'ose plus. J'enfile un t-shirt simple, je flotte dedans.
Dans la cuisine, je me dirige vers Juliette pour déposer un baiser sur sa bouche, comme tous les jours depuis plus de 15 ans. C'est devenu machinal à force, mais aucun de nous deux n'y a renoncé. Peut-être que c'est ça, être un couple, ces gestes répétés, ces attentions particulières, ces choses qu'on ne partage avec personne d'autre. Le baiser est furtif, il n'est pas accompagné de tendresse, mais qu'importe, il existe. Elle dit « Tu as bien dormi ?» Elle pose la question par réflexe, par habitude. Elle sait que non, on n'a pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. On connaît par cœur la respiration de l'autre quand il ne dort pas. Et puis on tournait et on virait dans le lit. On soufflait fort parce qu'on était agacé par cette insomnie. On n'a véritablement rendu les armes qu'aux premières lueurs du jour. Et moi je réponds « bof », sans détailler, sans m'attarder. Elle ne relève pas, on ne va pas discuter de l'anxiété et de la tristesse et des idées noires qui nous privent de repos. Elle dit « tu peux aller réveiller Enzo ? Je fais griller le pain. » Je pousse la porte lentement, la pièce est plongée dans l'obscurité. L'ouverture vient jeter un peu de lumière sur la moquette. Mon fils dort d'un sommeil profond, je le sais. On apprend aussi à reconnaître la profondeur du sommeil de ses enfants. Et Enzo a toujours été un gros dormeur. C'est un calvaire de le sortir de son lit aux aurores. Je préférerais le laisser dans le confort ouaté des draps. Il paraît sans défense. Mais je trouve surtout qu'il n'est atteint par rien, blessé par rien, et ça me semble magnifique. Je m'approche sans bruit, me penche sur lui, et je ne bouge plus. Quand je reviens, je sens l'odeur du pain grillé. Juliette ne s'étonne pas de me voir me pointer seule. « Tu n'as pas osé le réveiller, pas vrai ?» Je mens. « Si, si, je l'ai appelé, mais tu sais comme il est. » Elle lève les yeux au ciel, semblant me signifier « Sois un père pour une fois, et moi j'ai besoin de pouvoir compter sur toi. » Mais bien sûr, elle ne le dit pas. Ce n'est pas le jour pour une prise de bec. Du reste, cela fait combien de temps que nos discussions portent sur des sujets, disons, subalternes ? Depuis quand esquivons-nous l'essentiel pour nous concentrer sur l'accessoire de l'ordinaire ? Mais bon, c'est ça aussi un mariage qui dure. Cela dit, si d'aventure je lui faisais remarquer, Juliette me le reprocherait. Elle me jetterait la figure. « Quand je t'ai parlé des trucs graves, tu ne m'as pas écouté, tu te rappelles ?» Elle aurait raison. La première fois qu'elle m'a glissé à l'oreille, je crois qu'il se passe quelque chose avec Hugo. Il n'est pas bien. Je me suis en effet contentée de hausser les épaules. Juliette avait vu juste. Ça avait commencé. Il y avait eu les premières remarques sur sa façon de s'habiller. Ce jour-là, il portait un t-shirt rouge qui s'était délavé en passant à la machine et qui tirait depuis sur le rose. Un garçon de son collège avait crié sur son passage « Le rose, c'est pour les filles !» Un autre avait surenchéri « Ou pour les fiottes !» Puis les deux avaient fait un check et ils avaient rigolé. Sur le moment, Hugo, lui, n'avait pas ri. Et c'est peut-être son absence de réaction qui avait déclenché l'engrenage. S'il avait pris cette agression comme une moquerie sans importance, s'il avait ri avec ceux qui venaient de balancer leur saloperie en croyant se rendre intéressant, s'il était entré dans leur jeu, il ne serait peut-être pas allé plus loin. Ou, au contraire, s'il avait fait remarquer que les clichés, c'était naze, s'il avait souligné l'injure, expliqué qu'on ne devait pas employer les mots comme fiotte, il aurait sans doute agacé ses attaquants, mais également démontré qu'il n'avait pas peur d'eux. Au lieu de ça, rien. Le mutisme. Et un embarras visible. Alors, ils ont compris qu'il l'avait blessé, qu'il pouvait le blesser. Petit déjeune en silence, comme si la singularité de cette journée nous avait soudain rattrapés. Les raies du soleil viennent illuminer la toile cirée et aveuglent un peu Enzo. Cependant, il ne s'agit que d'une brève distraction. On ne voit que la place de l'absent, la chaise du manquant. On ne s'est pas encore habitué. D'ailleurs, est-ce qu'on s'habituera un jour ? Depuis qu'Hugo est parti, j'ai appris que c'est ce genre de situation qui est le plus cruel, qui fait le plus de mal. Parce que ce n'est pas philosophique, la mort. Ce n'est pas au-dessus de nous. Ce n'est pas ailleurs. C'est très concret, et c'est là. C'est une chaise vide, dans le petit matin tranquille, malgré le soleil qui éclabousse. Juliette range les tasses, les bols, les cuillères, les couteaux dans le lave-vaisselle, à la place qu'il aurait assignée, tandis que je m'occupe de remettre au frigo beurre et confiture, dans le placard le paquet de sucre, de passer un coup d'éponge. Je ne me rappelle plus quand cette répartition des tâches s'est décidée, il y a longtemps en tout cas. Les amis de Juliette lui disent « Tu as de la chance d'avoir un mari qui t'aide. Le mien, il met juste les pieds sous la table. » Je voudrais bien être l'homme qu'elle décrive, mais ce n'est pas le cas. Je suis juste un gars qui ne peut pas rester immobile quand quelqu'un s'affaire ou qui accomplit et répète des gestes sans y penser, c'est tout. Je ne sais pas ce que c'est d'être un mari exemplaire ou un père aimant. Je n'y ai jamais réfléchi. Je n'ai pas non plus été éduquée pour. Je voulais juste être un mari et un père, sans adjectif à coller. Et aujourd'hui, je dois admettre que je n'ai pas été attentif ou consciencieux, ni comme mari, ni comme père. La preuve, quand Juliette a appris qu'un môme avait malmené notre fils dans la cour de récréation et qu'inquiète elle m'en a parlé, Je lui ai d'abord opposé une sorte de moue. Tu veux dire quoi par malmené ? Elle a répondu, si j'ai bien compris, l'autre l'a poussé et fait tomber. Hugo a saigné du coude. Et c'est vrai qu'il a une sacrée éraflure. C'est d'ailleurs parce que je m'en suis aperçue qu'il a craché le morceau. J'ai joué la prudence. Mais on en est sûr, au moins. Il n'invente pas. Si ça se trouve, il se l'est faite toute seule, cette éraflure. Il est tellement manchot et il a la trouille qu'on l'engueule. Oui, ma première réaction, je me le reproche encore, ça a été de remettre en cause le récit qui m'était fait, de douter de la parole de mon fils et de penser que ma femme se faisait mener en bateau ou s'inquiétait pour pas grand-chose. Quand elle a insisté, j'ai objecté « Bon, ok, mais on a tous chahuté dans la cour. C'est vieux comme l'école, tu te tracasses inutilement. » Comme elle s'agaçait, j'ai continué à relativiser. « Les garçons sont des garçons, tu n'y changeras rien. » Je crois même m'être dit en secret, il apprend la vie le gamin, c'est pas plus mal à 14 ans. Non, je n'ai pas été un mari ni un père exemplaire. J'ai même été à peu près le contraire. Était en troisième à André Malraux. En maths, il apprenait les résolutions des problèmes et les démonstrations. En histoire, c'était l'évolution du monde depuis 1945. En SVT, le corps humain et la santé. En physique-chimie, l'énergie et ses conversions. Il faisait de l'anglais en LV1 et de l'espagnol en LV2. Je le sais parce que j'ai rangé ses livres de classe juste après. Il y a 3 mois, on m'aurait posé la question « Il a quoi programme votre fils ?» Je n'aurais rien su répondre. La seule chose que j'avais comprise, c'est que sa matière préférée, c'était l'éducation artistique et culturelle, bien que je sois incapable de dire par exemple à quoi correspondent les arts plastiques. Mon fils suivait un enseignement qui m'était étranger, auquel je n'entendais presque rien. D'ailleurs, je ne l'ai jamais aidé à faire ses devoirs. Je n'ai jamais relu une seule de ses dissertations. Je me rassurais en répétant « De toute façon, les ados n'ont pas envie que leurs parents s'occupent de leurs affaires. » Hugo jouait à Fortnite, écoutait de la musique, un casque sur la tête, de la pop, pas du rap. J'entendais les bribes quand il retirait son casque pour répondre à sa mère. Ne pratiquait aucun sport, sauf un tout petit peu de skate, et ça me désolait, parce que j'aurais bien aimé aller le voir disputer des matchs de foot, de basket, de n'importe quoi. Ou des tournois de judo, comme les pères le font avec leurs fils. Lisait les livres qu'il empruntait à la bibliothèque, avait agrafé un poster de Rimbaud dans sa chambre. C'est lui qui m'a dit que c'était Rimbaud, en haussant les épaules. Moi, j'ignorais à quoi il ressemblait. Avait grandi récemment, ce qui avait accentué sa maigreur. Avait du mal à se lever le matin, à s'endormir le soir, évitait le conflit. Ne s'énervait quasiment jamais, adorait son frère. Le petit se blottissait contre lui sur le canapé. Aimait le bacon cheeseburger et les crêpes au Nutella, buvait du coca, ce qui faisait enrager sa mère. Portait des pantalons trop larges, n'avait pas beaucoup d'amis. Cette liste-là, j'ai pu l'établir tout seul. Oui, si on m'avait interrogé au sujet de mon fils, c'est probablement ce que j'aurais mentionné. Mais je n'en aurais probablement pas dit davantage. Ou alors ceci. Sur la fin, il se plaignait de maux de tête, de douleurs au ventre, de crampes d'estomac. Il avait parfois envie de vomir. C'est Juliette qui m'a dit un jour « Je suis allée devant son collège à l'heure de la récréation sans me montrer. » Et moi, pauvre imbécile, je me suis agacée. Tu n'as pas fait ça quand même. » Elle a ignoré mon objection. Il m'a fallu moins de 5 minutes pour voir un truc. J'ai sursauté et oublié mon indignation. Quel truc ? Elle a dit, il y avait 2 garçons de son âge autour de lui qui s'amusaient, sur son passage, à mimer la peur, à faire comme s'ils étaient épouvantés, à se nouer les mains autour de la gorge comme s'ils étouffaient. Et puis ils ont commencé à se moquer de lui, à rire comme des abrutis. Finalement, il y en a un qui l'a bousculé d'un coup d'épaule, et lui, il n'a pas réagi. Il baissait la tête, il attendait que ça passe. J'ai dit, c'était sûrement pour rigoler. Tu sais, c'est pas forcément méchant. Les gamins, ils sont comme ça, surtout à cet âge-là. Je ne croyais plus tout à fait à mes propres explications, mais il fallait bien se rassurer, nous rassurer. Juliette m'avait quasiment mise en demeure. Il faut qu'on ait une conversation avec lui. J'avais répondu, et si tu te trompes ? Elle avait été péremptoire. Je ne me trompe pas, je connais mon fils. Façon indirecte ou inconsciente de me signifier que moi je ne possédais pas la même clairvoyance ni la même sensibilité. Se rendant compte de sa maladresse à mon endroit, ce n'en était pas tout à fait une, hélas, elle avait ajouté « Le harcèlement, ça n'arrive pas qu'aux autres, mon vieux, sinon pourquoi ils en parleraient autant à la télé ?» C'est à cette occasion qu'elle avait prononcé le mot « harcèlement » pour la première fois. La sonorité m'avait surpris. Il m'avait semblé qu'elle parlait d'une maladie, d'une pathologie comme la rougeole ou l'eczéma. Je n'avais rien trouvé à rétorquer. Oui, ça existait, visiblement. Ça pouvait donc en effet tomber sur nous, sur lui, question de probabilité. J'avais négocié. En tout cas, il ne faut pas en faire des tonnes, genre le prendre entre 4 yeux, sinon il va se braquer ou se sentir humilié. Parce que si c'est vrai, il dira rien. Si c'est faux, il nous en voudra. Elle m'avait rassuré, t'inquiète. Elle avait donc esquissé une première tentative, tout en douceur, alors qu'il goûtait, à la cuisine, au retour d'André Malraux et qu'elle rangeait les courses. « Ça va au collège ?» Il l'avait dévisagé, décodant ses soupçons en une fraction de seconde et avait lancé « Oui, ça va, pourquoi ça irait pas ?» Et il avait fichu le camp aussitôt dans sa chambre. Juliette s'était montrée catégorique. « Tu aurais vu sa tête, son regard, j'ai visé juste. » Et cette façon de déguerpir, c'était un aveu. J'avais opposé une moue dubitative. Elle avait recommencé quelques jours plus tard sur le mode « Tu as l'air bizarre ». Il n'avait de nouveau pas pipé mot. Dans la foulée, il était venu me voir et m'avait glissé « J'ai l'impression que maman flippe. Dis-lui que c'est pas la peine. » Je lui avais souri. Juliette avait fantasmé « Notre fils allait bien ». Ne parvenant pas à admettre qu'elle avait pu avoir tort, elle m'avait lancé « Ou alors, tu crois qu'il est homo ? Et que c'est pour cette raison qu'il l'embête ? Qu'il ne nous parle jamais et qu'il est fuyant ?» Je m'étais récrié « N'importe quoi ». Elle ne s'était pas découragée. Il est un peu efféminé quand même. Dans son esprit, c'était lié les gestes féminins et l'homosexualité. Dans le mien aussi, j'avoue. Pourtant, je ne m'étais pas démonté. C'est sa génération qui est comme ça, tu sais bien, leur truc avec les genres. Elle n'avait pas réussi à masquer son accablement. « On jurerait que tu fais tout pour ne rien voir. » J'avais filé au garage, prétextant devoir vérifier le niveau d'huile de la voiture.
Je songe. Comment ai-je pu refuser de considérer les signaux, même faibles, de repérer les indices, d'écouter ma femme qui est la plus incroyable des mères, de provoquer une discussion avec mon fils ? Le psy m'a assuré que je ne devais pas culpabiliser. La plupart des victimes de harcèlement s'enferment dans le silence, voire dans la dissimulation. Elles s'arrangent pour que leur entourage ne remarque rien. Elles ne veulent surtout pas éveiller les soupçons, parce que les soupçons les obligeraient à passer aux aveux, à se désigner comme victimes, à se reconnaître comme telles. L'aveu enclenche aussi un engrenage. Il leur faut accepter que ça leur échappe, que d'autres s'en emparent, et c'est tout ce qui les terrorise. Parce qu'elles répugnent de toute leur force à ce que leurs bourreaux soient informés de leur peur et sachent qu'elles ont cafeté, qu'elles ont été minables au point de cafeter, de s'abriquer derrière des tiers. C'est la démonstration éclatante de leur lâcheté, de leur nullité. Soudain, je suis saisie d'une canne de toux et je songe que la cigarette n'en est pas la seule responsable. Le premier qui s'en est pris à Hugo se prénomme Matisse. C'est lui qui s'est moqué de son t-shirt. Est-ce que ce coup de griffe qui lui est passé par la tête dans l'instant où est-ce qu'il y pensait depuis quelque temps ? A-t-il désigné sa proie au hasard ou l'avait-il repéré à l'avance ? Nous n'en savons rien. Toujours est-il qu'il a trouvé aussitôt un complice en la personne de Ryan. Il faut dire qu'ils étaient inséparables ces deux-là, ayant grandi dans le même quartier, fait les 400 coups ensemble. C'est ainsi que les parents ont qualifié leurs méfaits précédents quand on les a interrogés, comme si mettre le feu à des poubelles, chourer dans un supermarché, rouler en scooter à 12 ans et sans casque qui plus est, c'était faire les 400 coups. On les a grondés, hein, mais vous savez ce que c'est les mômes à cet âge-là, a objecté une des mères. Je l'ai déjà mentionné. Tout leur acharnement a découlé de cette première moquerie. Devant l'apathie de mon garçon, ils se sont crus autorisés à continuer à proférer d'autres sarcasmes, à le ridiculiser le plus belle. Quand Udo touchait un objet ou une porte, il s'approchait et mimait l'usage d'un désinfectant. Et si Hugo tentait de s'en offusquer, il haussait les épaules. « Faut pas le prendre mal, tête de bite !» s'écriait-il avant de s'éloigner en ricanant. Peu à peu, les attaques se sont multipliées. Dans la cour, lorsque les pions regardaient ailleurs, dans les couloirs au milieu de la foule, dans les cages d'escalier, dans la salle de classe quand le prof avait le dos tourné, c'était les cheveux tirés, des petites claques derrière la tête, les bousculades intentionnelles, les croche-pieds, les boulettes de papier lancées au visage, et même une fois un compas. À la cantine, personne ne venait plus manger à sa table. On lui adressait un doigt d'honneur en passant. Les attaques sont devenues incessantes. Et puis sont arrivées les insultes sur nous, sur sa famille. Ta mère, la pute, fils de prolo. Le plus souvent, le concernant lui directement. Tu sers à rien, t'as que dalle à faire ici, t'es qu'un loser, un microbe, un morbac. Ils l'ont affublé de surnoms atroces. Tafiole, susbite, trouduc, bâtard, bouffon, furoncle. Ils se sont livrés sur lui à des jeux odieux, l'enfermant dans les toilettes, balançant de la nourriture sur lui. Finalement, ils sont passés aux menaces. On va te faire la peau, te mettre un balai à chiottes dans le cul, te composter. Tout cela, je l'ai appris des mois plus tard.
Juliette n'arrivait pas à se sortir de la tête l'image des deux garçons qui avaient bousculé Hugo au collège. À ce moment-là, on ignorait les proportions que les brimades avaient prises, mais rien que cet accrochage la hantait. Un jour, elle avait explosé. « C'est qui ces mômes à la fin ?» Avant de passer à « C'est qui ces petits cons ?» Et moi, j'avais répondu « Ben, des petits cons, justement. » Elle n'avait pas été convaincue. « Non, tu aurais dû les voir. » Il n'était pas seulement agressif, il ne voulait pas seulement charrier Hugo ou le mettre dans un état de stress pas possible. Tu sentais leur besoin de le rabaisser, de le dominer. C'était comme s'ils cherchaient à démontrer leur pouvoir pour être craints, même pas respectés, craints. J'avais bêtement réitéré « Ouais, des petits cons quoi ». Elle s'était agacée, tu le fais exprès. Ils humilient ton fils juste parce qu'ils se croient autorisés à l'humilier et c'est tout ce que ça t'inspire. J'avais demandé « Ils étaient plus costauds que lui, je suppose. » Elle avait concédé, oui, il y en avait un qui était baraqué et l'autre qui était gros. J'avais conclu, ça s'appelle la loi du plus fort. Je te dis pas que c'est pas désolant, mais c'est classique. Elle avait haussé les épaules et fichu le camp, juste comme elle vient de le faire. Un autre matin, elle avait posé un diagnostic. J'y ai réfléchi cette nuit, je n'arrivais pas à dormir. En fait, c'est des gamins qui n'ont aucune sensibilité, aucune empathie. Tu aurais vu leur regard, un regard de veau, un regard mort. J'avais répondu, Du coup, Hugo a eu raison de ne pas réagir. Comment tu veux dialoguer avec Devo ? Aujourd'hui, on n'évoque plus tout cela, elle et moi, ou presque plus. Depuis que notre fils n'est plus là, elle s'y refuse, en tout cas avec moi. Elle en parle en revanche avec sa copine Céline, je les ai surprises au téléphone. Elle ne pourrait probablement pas s'empêcher de m'ensevelir sous les reproches, et elle ne voudrait pas ajouter de la crise à la crise. Elle a raison, et elle a tort. Il faudra bien qu'on le crève, ce putain d'abcès. Ensuite, le silence s'installe. On reste immobile, comme des gens qui s'ennuient, en apparence en tout cas, car dans nos têtes ça tourbillonne. J'imagine qu'elles pensent encore aux salauds, aux persécuteurs, qu'elles pensent aussi à leurs parents qui les ont protégés, à ceux qui ont tout vu et n'ont rien dit. Elles pensent aux ennemis. Moi, j'essaie de me souvenir de mon fils, de sa beauté, de sa pureté, de sa gentillesse. Aussitôt, je m'en veux de tous les moments où j'ai manifesté de l'indifférence à son égard, où j'ai fait preuve d'agacement. Je sais pourtant que ces contrariétés font partie de la vie, qu'aucune famille n'y échappe, mais j'aimerais tant que tout soit sans tache, que tout soit aussi blanc que ce qui nous attend au dehors. Je me rappelle une scène, il s'était énervé contre son frère. Le petit jouait avec sa console et faisait du bruit, un bruit répétitif, crispant. Hugo lui avait demandé d'éteindre le son ou d'arrêter. Le petit n'avait pas prêté la moindre attention à sa requête. Il avait redemandé, même fin de non-recevoir. Alors il s'était levé, lui avait confisqué d'un geste très violent sa console, l'avait balancé à l'autre bout de la pièce et lui avait crié dessus. Le petit était sidéré. Ayant assisté à la scène, j'étais intervenu pour réprimander Hugo, lui expliquer qu'on ne se comportait pas de la sorte. Je l'avais saisi par le bras, je lui avais dit « qu'est-ce qui te prend ?» Je l'avais sommé de se calmer, de s'excuser, et rien n'y avait fait. Il s'était dégagé de mon emprise, avait continué à crier de façon tout à fait brouillonne. Je lui avais ordonné de filer dans sa chambre et j'étais allé consoler le petit. Quand le calme était revenu, j'avais pensé « ce n'est pas normal, ça ne ressemble pas du tout à Hugo ». J'avais pris peur pour la première fois.
Peu de temps après ce pétage de plomb, il allait finalement céder et consentir à lâcher le morceau. Je n'ai pas oublié ce soir-là. Comment oublier ? Juliette préparait le dîner. Moi, je changeais une ampoule qu'elle m'avait demandé 10 fois de remplacer. On n'allait pas tarder à passer à table. Il était en train de mettre le couvert. C'était sa semaine. Enzo bullait dans sa chambre. Et là, il a lancé sur un ton plutôt désinvolte. Mais on a compris après coup qu'elle était complètement fabriquée, sa désinvolture. « Je crois que j'aimerais bien changer de collège. Tout le monde dit que Saint-Louis, c'est très bien. Et puis, c'est plus près de la maison. » Dans d'autres circonstances, on aurait peut-être accepté de discuter de sa proposition. Sauf qu'on était en milieu d'année, que de toute façon, il quitterait André Malraux en juin, et qu'on n'avait jamais envisagé de mettre nos gosses dans le privé. Du coup, rien ne tenait dans sa phrase. Dans la seconde, on s'est regardé avec Juliette. On a deviné immédiatement que cette étrange requête cachait autre chose. Elle y est allée franco. Qu'est-ce qui se passe à André Malraux ? Il a commencé par botter en touche avec un petit rire sardonique qui sonnait incroyablement faux. Rien, il ne se passe rien. C'est d'ailleurs le principe. Il ne se passe jamais rien à André Malraux. Elle a contre-attaqué, à peine sa tirade achevée. Tu te fous de moi, Hugo ? On ne demande pas à changer de collège comme ça. Il t'est arrivé un truc. On veut juste savoir quel truc. Il a posé les assiettes, baissé les yeux. Tu sais bien, avec les mecs de mon âge, on s'embrouille. Et moi, je veux plus d'embrouille. J'ai lancé un regard à Juliette pour qu'elle me permette d'enchaîner. J'ai dit calmement, lentement. C'est quoi ces embrouilles ? On va pas t'engueuler, tu sais. Il a relevé la tête. Son expression avait changé du tout au tout. Ses yeux étaient pleins de larmes, puis son corps s'est mis à trembler. Sa mère s'est précipitée pour le serrer dans ses bras. On a découvert un continent. Je ne peux pas mieux dire un continent. On a découvert que ses harceleurs mimaient une fellation quand ils l'apercevaient, se plaçaient derrière lui pour lui palper les fesses en lançant des « Reconnais que ça t'excite, sale pédé !» Le guettait à la sortie des toilettes et hurlait à la cantonade « Alors, tu viens de sucer qui ?» On a découvert qu'il les avait traités d'homophobes et que les autres avaient rétorqué « Elle connaît les mots compliqués, la bouffonne. Elle fait son intello. » qu'il avait alors tenté de les amadouer en faisant ami-ami et qu'ils avaient redoublé de violence. Dégoûté par une telle proposition et galvanisé par un tel avilissement de la part de leur cible préférée, qu'il avait dès lors décidé de ne plus répliquer et de ne plus insister, dans l'espoir qu'on le laisse tranquille, mais il persistait à l'insulter, à le caricaturer, qu'il l'avait isolé de ses rares camarades en intimant à ceux-ci de choisir leur camp, qu'il s'était ensuite fait le plus discret possible, arrivant au collège à la dernière minute, prenant la poudre d'escampette dès que la cloche sonnait, se planquant à la bibliothèque lors des récréations, filant à l'infirmerie pour des migraines imaginaires. Mais les autres ayant démasqué ses manœuvres, l'attendaient à la porte de la classe ou le traquaient au CDI, le débusquaient à la sortie du cabinet médical. Qu'en désespoir de cause, il s'était recroquevillé sur lui-même et cela n'avait fait que renforcer leur conviction d'être tout-puissant. Qu'ils avaient diffusé sur un groupe WhatsApp une vidéo où ils le jetaient à terre sans qu'ils se défendent et l'avaient agrémenté d'émojis exprimant leur hilarité et leur mépris. On est resté sans voix. On s'était tous les trois assis autour de la table de la cuisine et on était sonnés. Enzo nous a trouvés dans cette prostration. Il a dit « J'ai raté quelque chose ?»« Je vous demande de vous mettre à notre place, un instant, rien qu'un instant. » Votre enfant vient vous raconter ça, l'humiliation, la persécution, le bannissement, l'isolement. C'est votre fils, votre fille, il a 12 ans, elle en a 8 ou 14, c'est la chair de votre chair, ce que vous avez le plus précieux au monde, et même si vous ne le répétez pas chaque matin, c'est une certitude, la plus ancrée de vos certitudes même. C'est l'être que vous devez protéger, défendre, soutenir, aider à grandir. Et il vient vous avouer cela. Vous y êtes? Vous la devinez, votre stupéfaction, votre mortification, votre culpabilité, votre douleur, votre colère? Ça vous envahit, pas vrai? Ça vous submerge, ça vous dépasse, ça vous anéantit. Et ça, ce n'est que le début, que les toutes premières minutes.
Car du nord en novembre, les cheveux en pagaille, comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale. Tout à coup me voilà, les jambes fébriles. Quelle est grande pour moi cette scène imposante où tout devient fragile. Et bam, bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat. Et bam, sur la musique. Maman, je l'ai fait pour toi. Je veux pas l'Amérique. Jamais rien n'efface les rêves ou la violence. Ah oui, ça vous glace, mais c'est pour ça qu'on chante. Donnez-moi des jouets et que vienne la pluie. On ne montrera jamais que j'ai déjà gagné de nouveaux amis.
Laissons pour aujourd'hui le père d'Hugo à son questionnement. Nous vous encourageons vivement à poursuivre la lecture de Vous parler de mon fils et à vous interroger à votre tour sur notre responsabilité à tous, parents, enseignants, politiques. Que faudrait-il donc faire pour que cela n'ait pas lieu? Merci à Philippe Besson pour ce livre nécessaire. Cette lecture a été préparée par Annie et Guylaine. Nous remercions Claude Michel pour le montage. Au cours des pauses musicales, vous avez entendu « Et bam !» de Mélissa. À bientôt.
Chers auditeurs,
Si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Vous êtes chanteuse, chanteur, seul ou en groupe et vous voulez que votre dernière création passe à la radio?
Alors participez à la 6e édition de Radiovision, le concours de chansons.
Rendez-vous sur radiovision.fr, mais attention, c'est jusqu'au 18 avril seulement.
Bonne chance et à bientôt pour la finale sur radiovision.fr.
Tout de suite sur Radio G, découvrez un artiste de l'équipe Espoir du Shabada, la salle des musiques actuelles à Angers.
Those mornings were the first dream I saw.